France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast dans mon bistrot aujourd'hui, je reçois une actrice révélée dans le premier film de Justine Triet, La bataille de Solferino. Et puis elle tient le premier rôle dans Jeune femme caméra d'or à Cannes. Son premier film s'intitule Le procès du chien avec François Damiens. Elle crée aussi des spectacles. Vous avez deviné ? C'est Laetitia Doche.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
On y va ? Allez, c'est parti. Clap de début.
Bonjour. Allez. Maman.
Ma maman, elle écoute votre émission alors qu'elle est de droite. Hein.
C'est vrai ? Elle s'appelle comment ?
Elle s'appelle Patricia. Oh,
bonjour Patricia. Merci de nous écouter. C'est génial.
Oh pardon, j'espère que ça va pas la gêner que je dise ça d'ailleurs.
Voilà, c'est trop tard. Bah là, du coup, elle a coupé. On l'a perdu. J'allais dire Laetitia Doche, bon, on commence par quoi ? Vous avez pris les devants, en fait. Laetitia Doche, vous êtes à l'affiche du premier film de Mélisa Godet, qui s'intitule La maison des femmes, avec Karine Viard, Eye Haïdara, Oulaya Mamra, Pierre de la Donchamp et Laurent Stocker de la Comédie Française. C'est l'histoire de la maison des femmes de Saint-Denis, une structure qui accueille des femmes qui ont subi des violences sexuelles et animée par des femmes et des hommes qui les prennent en charge sur le plan médical, psychologique, social. Alors le film raconte la vie de cette maison au moment où elle risque de fermer. On croise donc des parcours de femmes, celles qui sont soignées et celles qui soignent, dont vous faites partie. Karine Viard, elle interprète le docteur Rada Atem, la gynécologue obstétricienne fondatrice de cette maison qui a été créée il y a 10 ans et qui a maintenant essaimé dans toute la France. Et vous, vous êtes Manon, la sage-femme. On verra qu'elle n'est pas si sage. Dans cette maison, je me suis demandé, tiens, quel rôle tient la sage-femme ?
Bah, c'est une bonne question. C'est pas seulement la sage-femme d'ailleurs, c'est aussi la coordinatrice autour des violences sexuelles. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'elle va rencontrer les patientes et elle va définir avec elles quels soignants seront bons pour l'accompagner. C'est-à-dire, est-ce qu'il lui faut une assistante sociale, un psychologue, un médecin, enfin, quel soignant autour d'elle pour son parcours de soins. Donc ça, c'est mon taf. Ouais.
Alors, sage-femme, je l'ai dit, donc pas si sage. D'ailleurs, là, on est au grog.
J'espère qu'on va tenir jusqu'au bout de l'émission. On sent que je dise trop de bêtises, mais
je trouve franchement... c'est vraiment. Ça ressemble à votre personnage, ce que vous avez choisi. Alors, vous êtes un peu enrhumé, vous avez pris un grog. C'est à la fois ça soigne et à la fois il y a un petit peu d'alcool dedans.
Ouais, c'est vrai.
C'est vraiment votre personnage. Parce qu'elle est sage-femme, elle est maman d'un bébé qui n'a pas encore un an, très très engagée dans sa mission et qui refuse de sacrifier sa mission pour sa vie de famille. En fait, c'est pas très politiquement correct. C'est très grog.
Ah oui, c'est vrai. En fait, ça m'a beaucoup touchée de jouer ça, en fait. Oui. Une mère passionnée qui soigne les autres femmes et qui, en même temps, dans sa vie de femme à elle, c'est le chaos complet. Ce bébé qui vient d'arriver, le couple qui part en vrille, elle dort plus. Moi, je suis pas maman. Et j'étais très touchée de voir jouer ce problème des mamans d'aujourd'hui. Ça m'a touchée. Et je devais jouer avec un bébé. Je devais danser avec un bébé, faire danser un bébé, mais j'avais une trouille, j'avais peur de lui péter la nuque, j'avais peur d'un accident, ouais. Et je me sentais comme pas légitime de jouer ça, vous voyez. C'est ça qui est intéressant, ouais. Parce que j'ai quand même joué des RH, je connais rien aux relations, à ce genre de boulot, mais c'est comme si, bizarrement, en tant que femme, on se sent jamais complète, on est tout le temps complexée, ben moi j'étais complexée de pas être maman.
Pour jouer ce rôle,
ouais.
De jeune maman. Ah oui. Mmh. Et est-ce que...
Donc ça m'a réparé, je veux dire.
Ah.
Parce que quand on joue des rôles, le cinéma, ça nous répare.
Un peu comme les soignantes dans La Maison des Femmes, parce qu'elles se donnent tellement dans leur mission, ouais. Corps et âme, qu'elles ne cherchent pas un peu à se soigner aussi.
Ben, je pense, le vrai truc, je crois que quand on fait un métier, comme vous, Charline, un métier qui a du sens pour nous... Et bah, d'une certaine manière, ça nous émancipe. On trouve de la force dedans, on trouve de l'énergie, on s'assume. Et en fait, le sens de notre vie, ça nous permet de nous réparer, en fait. Le sens qu'on donne à notre vie, je trouve.
Vous pouvez nous décrire un peu le profil de votre personnage, parce qu'elle a quand même un look, une attitude, comme ça on se fait une idée.
Oui, je peux carrément faire ça.
Ouais.
Même un peu enrhumée. Alors là, pas de problème. En fait, ce que j'ai vachement aimé, c'est que... Les soignantes, dans ce film, et aussi à la Maison des Femmes, elles ont des looks pas possibles. Et on peut écouter quelqu'un parler des violences qu'elle a subies, et en même temps avoir un t-shirt avec un cornet de frites dessus. Ça n'empêche pas la joie, ça n'empêche pas la fantaisie, ça n'empêche pas la rébellion. Manon, elle est un peu punk aussi, elle dit des gros mots. elle passe pas bien partout. C'est pas une femme qui est très dans les clous, quoi. Mais comme aucune de la Maison des Femmes, en vrai.
C'est pas le cliché des actrices du cinéma, de la femme lisse, etc. On est vraiment là,
non,
de l'autre côté.
Ni des personnages de films. Parce que quand même, les personnages de films, on les lisse vachement dans les films. Je vais parler de ma banquière, si ça vous embête pas.
Non, allez-y. J'espère qu'elle nous écoute aussi, parce que comme elle est de droite, sûrement.
Elle est très jeune et elle fait du handball. Et donc, j'ai dû avoir une consultation avec elle il n'y a pas longtemps, même si on ne dit pas consultation, un rendez-vous.
Et vous n'êtes pas allongée à côté du ficus dans le bureau de la banquière, genre.
Non, mais elle avait son bras dans le plâtre. Elle me dit, oh, handball, je me suis fait trop mal, Laetitia. Elle me parle comme ça. Je veux dire, les gens dans la vie, ils sont quand même très surprenants. Ils sont complexes et j'aimerais qu'on les montre plus comme ça au cinéma. Et c'est exactement ce qu'elle fait, Mélisa.
Vous avez eu votre prêt ou pas?
Bon, je vais prendre un peu de grog.
On va revenir au film. Donc, elle a ce côté avec des aspérités, cette sage-femme que vous incarnez dans La Maison des Femmes. Elle est maman, on l'a dit, d'un tout petit bébé, il n'a même pas un an. Et elle dit cette phrase,
ouais.
Je préfère que mon fils m'en veuille de ne pas avoir été là, plutôt que moi, je lui en veuille de m'avoir privé de ma vocation.
Vous vous rendez compte, hein ?
Moi qui ne suis pas maman non plus,
ouais.
Comme vous, bah, ça nous parle quand même vachement.
Bah oui, moi j'ai lu cette phrase qu'elle avait écrite, Mélisa, je me suis dit mais elle est courageuse d'écrire ça. Elle est maman, elle se pose ce genre de questions. Et je dis mais qu'elle assume cette question, c'est ultra moderne, c'est un peu tabou. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Effectivement, en tant que pas maman, on veut dire qu'on se dit ah, on a de la chance. Non, moi j'ai l'impression en fait, moi j'entends beaucoup les femmes autour de moi parler de leurs enfants ensemble. À chaque fois, je me sens toujours un peu à part. Donc je me dis jamais que c'est une chance de pas avoir d'enfants. Je suis en train de travailler à me dire que ma vie a un sens spécial, que je dois lui donner encore plus de sens parce que je n'ai pas d'enfants. Et c'est très difficile, c'est tout un parcours, je trouve. Et c'est, je trouve ça important de reconstruire ça pour soi, mais aussi pour toutes les femmes qui n'ont pas de gosses et qui sont pourtant des femmes entières.
Les femmes qui sont accueillies, elles, qui sont-elles ? On découvre quel parcours, quel profil et quelle violence à travers celles qui sont accueillies, qui sont jouées par des actrices que je vais nommer, parce que faut être balèze pour jouer ces rôles. J'en cite quelques-unes. Il y a Yves-Marie Nagnawa, Marie Matheron, Eliane Oumouiré et Jeanne Rosa. Et
bien Amandine Devam, je vais dire.
Oui.
Aussi. Elles viennent de tous les horizons, ces femmes qui viennent parler à la Maison des Femmes. Donc il y a des femmes, effectivement, qui viennent de pays plus lointains, qui ont dû même traverser l'eau dans des petits bateaux, comme on dit, pour venir, qui ont subi des excisions qu'il faut réparer. Il y a aussi une assistante sociale, qui d'ailleurs aide des femmes, mais ça n'empêche pas d'avoir été victime de violences dans son couple. Mmh. Il y a une femme de médecin des beaux quartiers. Enfin, il y a énormément de profils différents qui montrent que ça touche tous les milieux sociaux, la violence faite aux femmes, et que aussi la diversité des violences, parce qu'effectivement, il y a les violences physiques, il y a les violences psychologiques, il y a les mutilations, enfin, il y a plein de types de violences différentes.
Karine Viard dit qu'elle a appris beaucoup de choses en tournant ce film.
Ouais.
Vous aussi, il y a des aspects que vous avez découverts, des choses que vous avez apprises?
Ouais, il y a plusieurs choses. D'ailleurs, pardon, ça m'émeut d'en parler parce que il y a pas longtemps, on présentait le film et j'ai rencontré une interne de la Maison des Femmes de Tours, je crois, si je me souviens bien, et elle me dit, moi, je peux tout soigner, le seul truc que je peux pas, c'est l'excision. Donc j'ai découvert ce que c'était que l'excision. Pour moi, c'était quelque chose qui ressemblait un peu à la circoncision, donc qui se voyait à peine. C'est une mutilation qui a un visage, qui a même 1000 visages, si je puis dire, qui a 1000 façons de le faire. Il y a aussi le fait de recoudre les lèvres des femmes, ce qui leur crée des problèmes aussi d'infection pour faire pipi, notamment. Enfin, toutes ces choses-là que moi, je ne connaissais pas. Mais le truc le plus beau que j'ai découvert avec ça, c'est qu'on pouvait le réparer. C'est quand même hallucinant. J'ai Rada qui m'a montré des photos, Rada Atem. Elle m'a montré, je voulais voir et je voulais pas regarder sur Google. J'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne. Elle m'a montré des photos. Donc, j'ai appris ce genre de choses. Après, ce que j'ai appris personnellement, c'est à quel point le collectif, c'est important. Quand même, ces femmes, elles ont des vies très... C'est dur ce qu'elles vivent, ces soignantes, mais elles tiennent avec le collectif et ça les pousse. Et aussi, personnellement, de faire ce film, ça m'a permis de me reprendre, de me reconstruire. J'étais dans un sale moment de ma vie. J'étais en crise de la quarantaine, j'avais plein de trucs, même physiquement, qui partaient en vrille. Et de faire ce film, ça m'a comme donné un sol sur lequel m'appuyer pour rebondir, pour me reconstruire. Après, toute l'année d'après, je me suis reconstruite, quoi.
Thérapeutique, ce film.
Ouais. Ouais, thérapeutique. C'était un choc, mais c'était thérapeutique, ouais.
C'est comment la crise de la quarantaine ? C'est pas pour moi, c'est pour une amie.
Ah, ok. Alors, la crise de la quarantaine chez moi, alors, il y a eu plein de trucs différents. Il y a mon physique qui a changé. Les joues sont tombées, enfin tout ça, tout a changé. Mais vous êtes gentil, vous allez me dire
non,
que ça va.
Bah non.
Mais parce que je me suis reconstruite, j'ai pris 6 kilos, je n'avais plus de goût pour rien. Je me demandais quel était le sens de ma vie. J'avais moins de propositions de travail aussi. Je ne savais plus pourquoi je faisais ce métier. Enfin, c'était... Et aussi, j'ai des problèmes hormonaux avec la périménopause.
Oui, voilà, on est au bar, on peut parler de tout.
Bah, bien sûr.
La périménopause, ça fait ça, ça fait des gros problèmes de sommeil, émotionnel. Et il faut comprendre à un moment ce qui se passe et ça prend du temps. Et puis, il faut recréer une autre hygiène de vie, retrouver du sens. Donc, j'ai eu du pot. Hein. Moi, je suis partie en voyage, j'ai rencontré l'amour. Je n'étais pas tombée amoureuse depuis des années. Donc ça va bien, mais je comprenais plus le sens de ma vie. Et puis je comprenais plus Instagram. En fait, j'avais été dans mon trou là pendant 4 ans à faire mon film. Et après, j'ai découvert Instagram, à quel point c'était devenu important pour les actrices. Et j'étais là, mais attends, moi je suis une mémé. Ah oui, on se sent comme une mémé aussi en tout. Et les gens vous disent beaucoup bonjour madame.
Donc c'est tout ça, la middle life crisis.
Yes, exactly.
Ah, oui. D'accord.
Mais du coup, ce qui est cool, c'est que on doit se reconcentrer sur ce qu'on veut nous. Ce qui fait sens pour nous, puisque c'était une période où j'étais moins désirée aussi, mm-hmm. dans tous les domaines. Et donc, ça va mieux maintenant. Je peux vous dire, je sors en boîte. Hein.
On sent la flamme. On est devant un grog un samedi soir. Ça donne chaud, hein ? Ou alors c'est la périménopause. Mais...
Non, parce que moi, j'ai pas chaud, mais bon, je suis en Marcel.
Ben oui.
Je vois le coup maintenant.
Ben oui, je vois.
Je me balade que en Marcel.
On parle de la maison des femmes.
Oui.
Et le féminisme, il est multiple. Il peut être radical, réformiste, ça peut être les colleuses, ça peut être Laura Adler, ça peut être nous toutes, oui. les femmes. C'est une galaxie.
Oui.
Est-ce que vous êtes sur quelle planète, sur cette galaxie féministe, vous ? Vous en avez une de planète ?
Ah, bah c'est-à-dire qu'elles sont toutes importantes pour moi. C'est-à-dire que j'adore et j'ai besoin de voir les mots des colleuses dans la rue. Mmh. J'ai besoin d'entendre Laura Adler tenir un discours précis, intellectuel. Et alors moi, par contre, qu'est-ce que j'apporte là-dedans ? C'est peut-être ça la question. Parce que moi, tous ces féminismes, enfin, je comprends même pas pourquoi ils sont en guerre. C'est intéressant, les discussions. Moi, ça me fait penser, tous ces féminismes ensemble, qui sont parfois pas d'accord. Et moi, qu'est-ce que j'essaie d'apporter ? J'essaie d'apporter de la profondeur, aussi de l'émancipation. J'essaie de pouvoir essayer d'être le plus intègre que je peux, ce qui n'est pas facile. Aussi faire des blagues, être parfois un peu vulgaire et essayer d'avoir un rapport de support avec les autres femmes. Ce qui, dans notre milieu, ce n'est pas évident, parce qu'on est énormément mis en concurrence. Et essayer de pousser les femmes autour de moi, allez, vas-y, j'aide le plus que je peux.
Bah oui.
Et là, maintenant, c'est aussi, du coup, avec la crise de la quarantaine, c'est transmettre, parce que je suis prof au conservatoire aussi.
Ah bon ?
Ouais.
À Paris ?
Ouais, enfin j'ai ouais.
Ah bah oui, il y a la transmission maintenant.
Ouais. Transmission, ouais. Mais notre génération, donc j'apprends ma génération, elle a quelque chose à dire que la génération d'après n'a pas à dire. Et que en fait, ce qu'on a à dire nous, c'est assez précieux parce qu'il y a quelque chose de l'incorrection et de la subversion
mm-hmm.
qu'il faut garder. Et plus on devient vieille, plus il faut le garder, je crois.
Je prends des notes.
Bon, vous avez pas besoin.
Laetitia Deutsch, il y a aussi des hommes dans ce film,
ah oui.
La Maison des Femmes, parce qu'il y a aussi des hommes dans ces structures, bien sûr. Alors, ils jouent quel rôle ? Et la rôle a deux sens, hein, dans la réalité, dans le film, au milieu de toutes ces femmes.
Ben, je ne sais pas comment commencer. Le psychologue, interprété par Pierre de la Donchamp, donc c'est un peu un des seuls soignants dans cette équipe. Parce que dans la réalité, dans les milieux soignants, il y a beaucoup de femmes, en fait. Il dit quelque chose de très important à une de ses patientes, à une assistante sociale qui subit des violences. Il lui dit, droit dans les yeux, il lui dit, c'est important qu'un homme vous dise aussi que ce qui vous arrive n'est pas normal. Et ça, je trouve, c'est une phrase centrale du film. Parce qu'effectivement, ça concerne tout le monde, les hommes et les femmes. Alors, il est psychologue, on a aussi Jean-Charles Clichet, qui est comptable, enfin administrateur, donc qui est un peu le rabat-joie, on va dire, mais qui est très drôle. Mais par contre, les hommes, ils sont très importants dans ce combat contre la violence faite aux femmes, parce que c'est aussi un combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et moi, je trouve que c'est aussi profitable aux hommes. C'est quand même cool d'avoir à côté de soi quelqu'un avec qui on fait une équipe, et pas quelqu'un qui est en dessous de vous pour vous faire briller, enfin, d'être en équipe. Et les hommes, dans ce film, ils sont les bienvenus à le voir. Ils sont pas très nombreux dans l'équipe soignante, mais ils sont très importants, ouais. Par contre, c'est un peu des souffre-douleurs, du coup, pour les femmes soignantes autour d'eux.
Laetitia Doche, vous nous disiez tout à l'heure à quel point ce film il est important pour vous, même dans votre vie. C'est un premier film, et le scénario vous est parvenu par la poste, c'est ça?
Oui, je crois, oui, parce que je le demande en papier, donc il me parvient par la poste.
Je remarque ma grande naïveté sur le milieu du cinéma. Moi, je pense que les scénarios arrivent par la poste et les enfants dans les choux, quoi. C'est vraiment...
Ah, mais ils arrivent par la poste à un moment donné. Mais...
Moi, je me fais des films dans ma tête aussi. Hein.
Je vais vous laisser vos films, d'accord? Je vais pas répondre à la question parce que c'est mieux ce que vous dites. Mais en tout cas, c'était super bien écrit.
Ah, ok. Mais ça veut dire que la réalisatrice avait pensé à vous, vous l'avez rencontrée, vous avez discuté.
Oui, voilà, elle a pensé à moi et je suis très honorée. Parce qu'on m'a rarement proposé des personnages où il y ait et de la fantaisie, et de la subversion, et du fond, et de responsabilité. Mais anyway, Mélissa Godet, elle a écrit un bijou. On lit ça et on est très émus, effectivement, pour les valeurs que ça défend, pour le combat que ça défend, mais aussi pour la beauté de comment elle arrivait à traiter chaque personnage pour qu'on s'y attache. Il y a quand même 55 personnages de femmes dans ce film. Qui vont être incarnées par des actrices qui viennent de partout, qui ont toutes sortes de formes, on va dire. Parce que le féminin a toutes sortes de formes.
Il y a une diversité gigantesque.
Diversité, voilà, merci, c'était ça le mot.
Ça, c'est un film de cinéma français où il y a une diversité, c'est le plus diversifié.
De cette année? Ah, c'est sûrement le plus diversifié, ouais. Et c'est aussi parce qu'elle a une connaissance de ses personnages et une envie de laisser la place à chacun, Mélissa. Qui est très forte, et moi je trouve que c'est quelqu'un de remarquable et qu'elle a créé un film remarquable. Mais monter ce film-là, ça doit être très dur pour créer l'orchestration entre tous ces personnages. Et je trouve qu'on s'attache à tout le monde. C'est comme une humanité et une vision large de la féminité qu'on voit.
Vous constatez qu'on vous confie rarement des rôles de femmes à responsabilité. C'est vers là que vous voulez aller quand même? Quand vous réalisez votre premier film, Le procès du chien, vous donner comme rôle votre métier avocate, par exemple.
Avocate non conventionnelle. Moi, je suis quelqu'un de très engagé, très responsable dans la vie. J'ai dirigé un film, j'avais quand même 150 personnes à diriger, même si c'est dirigé cool. Mais par contre, c'est vrai qu'on m'a beaucoup donné, mais je pense que ça va changer avec l'âge. On m'a beaucoup donné des rôles de marginal, de borderline, de faux-folle. Et c'est une sorte d'enfermement. Ouais.
Ah oui.
Mais je pense que toutes les actrices, elles ont leur propre enfermement. Enfin, moi, c'est ça. Et puis, je ne vais pas citer personne, mais elles doivent en avoir d'autres. Il faut toutes qu'on se libère de ça. Et justement, c'est des femmes comme Mélissa qui apportent d'autres visions. En fait.
Vous prenez souvent les devants, Laetitia Doche, aussi, quand vous créez un spectacle. C'est-à-dire que vous n'attendez pas d'être choisie. Mais aujourd'hui, maintenant que la crise de 40 ans est passée, vous êtes choisie.
Je suis toujours choisie par moment. Et après, on propose un peu le même rôle qu'avant. Mais en fait, ça n'empêche pas. C'est ça. Il faut qu'on mette la vapeur de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est peut-être ça la question. Est-ce que j'ai des choses à dire maintenant? Et après, est-ce qu'on me le propose? Est-ce qu'on ne me le propose pas? Est-ce que j'ai envie de le dire d'une façon à moi? C'est surtout ça la question, en fait. Dans notre métier, effectivement, on est en position d'être choisi, mais on est quand même des artistes, des êtres humains, et on a des choses à dire, des fois. Pas tout le temps.
J'ai l'impression que vous en avez deux, trois à nous dire, effectivement. Ça, on s'en rend bien compte. Il se dégage de ce que vous racontez quand même beaucoup de générosité, d'humanité. Ça se voit aussi dans ce que vous créez. Je me dis, vous devez être le genre de meuf qui peut-être se laisse embarquer par son empathie dans des histoires. Non? Vous êtes jamais...
Vous allez me faire pleurer?
Ah, c'est vrai? Pourquoi?
Non, mais c'est toutes mes questions dans ce moment.
Ah ouais?
Ouais.
Non, parce qu'on sent que dans vos choix, dans vos propos, vous dégagez beaucoup d'empathie. Et je me suis dit, ça doit parfois l'embarquer dans des trucs.
Et à mon avis, vous savez très bien ce que c'est. actrice, justement, c'est un truc qui sécurise ça, parce que on va jouer des autres, donc il faut de l'empathie, et en même temps, on est payé. On les représente. Ouais, moi j'aime beaucoup rentrer dans les histoires des gens, en fait. Ça m'intéresse énormément. Et maintenant, je suis en couple, et donc je dois œuvrer à mettre mon empathie à la bonne place et pas à la mauvaise. Voilà.
Sinon, vous ramenez des gens dans le salon, vous hébergez.
Non, sinon, je fais la maman poule, ce qui est vraiment pas du tout sexy pour un couple.
C'est les petits tutos de Laetitia Doche pour entretenir votre couple. Si vous nous rejoignez, nous sommes sur France Inter, mais surtout dans mon bistrot. C'est Bistroscopie avec Laetitia Doche. Là, vous faites l'andouille parce que vous parlez hyper bien anglais. Vous avez fait anglais à Nanterre.
Oui, c'est vrai.
Ah ouais, vous destinez à la traduction d'œuvres littéraires anglo-saxonnes quand même.
Ouais. Et ça m'a passionnée, ça. En fait, la linguistique m'a passionnée parce que je trouve ça incroyable que chaque peuple ait développé sa propre façon de découper le sens. Par exemple, je parle pas japonais, mais les japonais, ils ont 20 mots pour dire honte. Mmh. Enfin, et nous, on en a qu'un. Comment on le traduit d'une langue à l'autre? Enfin, il y a la même chose en anglais. Et je trouve ça dingue parce qu'on parle de ce qu'il y a derrière les mots quand on rentre dans la traduction. Et en fait, c'est le même boulot que actrice d'une certaine manière. On parle de ce qu'il y a derrière les mots. Et non, je trouve ça, c'est un métier sublime. Je l'ai raté, mais du coup, je vis avec quelqu'un avec qui je dois parler anglais, donc je fais des engueulades en anglais.
Et là, il y a du vocabulaire, là.
Il y a du vocabulaire.
Il n'y a pas le temps d'ouvrir le dictionnaire, hein, dans ces cas-là.
Ah non, et en même temps, on doit garder son sang-froid, parce que sinon, on perd les mots.
Oui, c'est vrai.
On doit être dans le sens.
Vos auteuristes favorites en littérature anglo-saxonne. Là, vous avez spécialité plutôt victorienne.
Ah ouais, moi j'ai adoré les sœurs Brontë, notamment Emily Brontë. C'était les poèmes de William Blake. C'était une littérature qui amène des crochets de boucher, qui amène de la violence. Quand même Wuthering Heights, donc Les Hauts de Hurlevent avec Margot et Jacob là. C'est pas du tout ça, Les Hauts de Hurlevent. C'est ultra violent, hyper dérangeant, et les problèmes de classe sociale. Il y a beaucoup de trucs de classe sociale dans la littérature victorienne et aussi beaucoup ce truc de l'amour romantique malheureux, donc qui m'allait beaucoup à l'époque. Je pense que moins maintenant. Par contre, les poèmes de William Blake, c'est un truc de malade. C'est d'une beauté.
Et à l'école catholique, Laetitia Doche, vous rencontrez le théâtre un peu comme on rencontre la Sainte Vierge, non?
J'aimais beaucoup mes cours de catéchisme, en vrai. Il y avait des belles images, j'aimais bien. Maintenant, je suis pas forcément catholique très pratiquante, quoi.
C'est à l'école que vous faites du théâtre.
Oui, non, mais je vous avais raison. Et donc, il se trouve que les cours de théâtre, vous savez où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient dans la chapelle. Ils étaient dans la chapelle du lycée. Effectivement, j'ai rencontré le théâtre comme la Sainte Vierge.
Ouais. Et oui. Et pour autant, votre écolage a été long. Vous avez passé 7 ans dans 3 écoles différentes, l'école Périmonie, le cours Florent. Et puis la Haute École des Arts de la Seine à Lausanne, c'est ça?
Oh oui, la Manufacture.
La Manufacture, ouais. C'est ça, oui, oui. Gros cursus.
Passionnant.
Ah oui?
Ouais.
Ah oui, parce que vous avez prolongé, donc j'imagine que c'était passionnant.
J'aurais bien aimé ne jamais sortir, j'avais trop peur déjà. Mais par exemple, Périmonie, c'était plus théâtre privé, genre du Feydeau, des choses comme ça. Après la classe libre, j'étais avec des fous furieux qui nous faisaient faire des impros sur faire n'importe quoi. C'était Michel Faux, mon prof. Et ensuite, la Manufacture, ils cherchaient des mauvais élèves. On avait les clés, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Et il y avait une émulation collective de fous. Et d'ailleurs, ils sont presque tous dans mon film Le Procès du Chien, encore 20 ans plus tard peut-être.
Ouais. On peut tout faire, même passer l'aspirateur dans le bistrot pendant qu'on fait une interview.
Le grog, franchement, est hyper motivant. Hein.
Oui, c'est vrai. Hein,
ouais, ouais.
Je vous sens à fond, moi aussi. Attendez, je reprends une petite gorgée parce qu'il faut qu'on soit à niveau dans cette
interview. Je suis plus malade, hein, vous savez. Ouais. Ça m'a guéri direct. Hein.
Faut qu'on soit au même niveau de grog. Sinon, il va y avoir un décalage dans l'interview.
Ouais.
Et donc, long écolage, passionnant.
Ouais.
Et quand vous créez votre compagnie, vous l'appelez la viande hachée des grisons.
Ouais.
Ouais, ben voilà, c'est normal. Ouais. Et puis vous montez un cabaret de femmes à barbe.
Oui.
Donc vous avez quand même un côté aussi classique que trash, j'ai l'impression.
Bah, en fait, les femmes à barbe, sous Napoléon, c'était des femmes qui étaient, qu'on pensait sages, genre très intelligentes, parce qu'elles avaient une barbe. Et je trouvais ça génial, ça. Et moi, j'ai une voix qui peut aller très grave. Je peux vous faire un exemple, si vous voulez. Je peux parler comme ça. Et donc, je faisais des chansons réalistes avec cette voix-là. Je trouvais ça drôle.
Mais ça donnait quoi? Vous vous en rappelez?
Oh, non, je me souviens pas, mais... Oh, 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 oh. Et donc, je l'ai même joué à l'Élysée-Montmartre par accident. Et les gens étaient médusés. Moi, ce qui me plaisait, c'était de méduser les gens.
Vous aimez le malaise?
J'aime que tout le monde dans la salle ne pense pas pareil. Et c'est pour ça que j'aime le service public. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent écouter la même émission et penser des choses différentes dessus.
Et on embrasse votre maman, de droite.
Oui.
Et tous les gens de droite qui nous écoutent, bien sûr.
Évidemment, tous.
Mais évidemment, les
gens. Mais on n'a pas de problème. Mais même les gens de gauche, on les embrasse aussi, d'ailleurs.
Oui.
Les écolos.
Voilà. Laetitia Deuche, donc on comprend que vous avez le goût de déranger, de la marge, un côté aussi quand même classique, travailleuse, etc. Est-ce que c'est parce que vous grandissez avec toute votre famille maternelle dans ce que vous appelez genre une grande coloc d'Aristofolklo dans un grand appartement parisien?
J'ai dit ça.
Ouais.
Ça a l'air C'était quand même un truc de fou. Ouais.
Mais ça a l'air fou votre enfance. Parce que si je résume aussi, il y a, si j'ai bien compris, un grand-père qui est ornithologue.
Ouais.
Un tonton taxidermiste.
Ouais.
Donc vous grandissez au milieu d'animaux morts?
Animaux morts, animaux vivants, tout ensemble.
Mais je serais trauma. Mais je serais trauma, moi. Vous n'êtes pas trauma.
J'ai des gens qui adorent les animaux. C'est leur façon d'aimer les animaux.
Ah oui.
Mon grand-père, il était ornithologue. Il allait dans tous les pays du monde observer les oiseaux, des espèces d'oiseaux magnifiques. Et puis, il avait ses petites chaussures, il montait dans l'arbre, il prenait deux œufs en souvenir, il repartait chez lui, il les vidait, il les mettait dans sa bibliothèque d'œufs. C'est sa manière d'aimer les oiseaux, mais c'était l'époque aussi. L'époque était comme ça, la nature, elle était prolixe, on voyait pas la disparition des espèces venir trop. Et mon oncle, effectivement, il adore... Il fait plus trop ça en ce moment, mais oui, remplir les animaux morts, les rendre vivants. Et il m'a raconté une histoire incroyable, si vous voulez que je vous la raconte.
Ben, volontiers, bien sûr.
Lui, il travaillait comme taxidermiste au boulevard Saint-Germain. Et il y avait en vitrine une grande lionne qui était là depuis quelques mois. Et tout d'un coup, il voit une petite fille s'arrêter devant cette vitrine et commencer à pleurer et à dire « C'est la lionne du bois de Vincennes, du zoo de Vincennes ». Et elle est rentrée demander avec son papa, et c'était vraiment la lionne du zoo de Vincennes qu'elle avait reconnue. Donc ça veut dire que le travail de taxidermie était bon, était fidèle. C'était un travail du musée Grévin, pratiquement.
Et là, elle est trauma aussi, elle, sûrement.
Ah, vous croyez?
Je sais pas, elle a reconnu le lion.
Mais je pense que c'est comme ça qu'elle a appris que la lionne était morte. Je sais pas si elle est trauma. Mmh.
Vous aimez les animaux, mais vivants. C'est comme si vous leur redonniez vie dans Le procès du chien, votre film, dans Hate, où vous êtes sur scène avec un cheval.
Alors après, il y avait aussi beaucoup d'animaux vivants dans ma famille, et pas des moindres. Il y avait quand même un fennec qui est venu quelque temps, un chinchilla, enfin plein d'animaux.
Comment est-ce qu'on vit avec un fennec?
Alors moi, je l'ai connu très petite. Je sais qu'il est devenu fou en se mordant la queue. C'est pas fait pour vivre chez nous, bien sûr. Mais la pie, par contre, j'ai développé tout un rapport avec mammouth. Mais par contre...
La pie s'appelait mammouth.
Oui.
Génial.
Le truc qui est super, c'est que j'ai grandi avec des animaux morts et vivants, donc ça m'a fait me questionner sur l'amour qu'on porte aux autres et sur la domination qui est incluse dans l'amour. Et donc, et de façon plus générale, notre proportion à la domination de tout. Donc, c'est des sujets qui m'ont accompagnée, effectivement, dans Hate, dans Le procès du chien, dans tout mon travail, et même dans La maison des femmes, où on parle de la violence faite aux femmes, on parle de domination.
Mm-hmm. Et petite, donc, vous semblez assez solitaire, parfois même en classe. Vous avez une période où vous avez un peu moins d'amis, ça développe, j'imagine, l'imagination, tout ça. Notamment, parce que vous étiez habillée en kilt avec des robes à smock.
Merde, j'ai dit ça. Ma maman me fabriquait mes vêtements. Elle prenait grand soin à me fabriquer des kilts et à me mettre les mêmes côte couleur sur mon chemisier qui allait avec. Donc en fait, les gens me voyaient comme marginale, mais genre trop, j'ai honte de le dire, trop aristo, trop cato.
Mais vous venez de l'aristocratie, en fait?
Bah ouais, je viens de l'aristocratie, ouais, c'est vrai.
L'aristocratie un peu déglingo.
Mais l'aristocratie est déglingo.
Ah ouais?
C'est des gens déjà qui ont des grandes valeurs morales, c'est pas des bourgeois, hein. Des gens qui ont des grandes valeurs morales et qui adorent la fantaisie et même qui planquent tout un peu derrière la fantaisie. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses cachées. Je pense que c'est pour ça que j'ai voulu faire actrice. C'est pour écrire des spectacles, pour libérer des choses cachées qui appartenaient à ma famille, à ce milieu.
Ouais.
Mais c'est des gens assez sympathiques et en fait assez... ils ont beaucoup de compassion. Enfin, c'est des gens qui ont eu de l'argent, qui sont pas là en train d'essayer de gagner des sous. Ils sont pas dans ce rapport par rapport aux actions, aux choses comme ça. c'est un autre rapport, ouais.
Et même dans l'aristocratie, on planque des piles de harakiri, le journal satirique, dans le grenier.
Ah, ça c'est mon oncle Hervé.
Ah.
Donc Hervé, taxidermiste, ouais. Lui, c'est un grand 68ard. C'est un mec qui lit énormément, beaucoup de philosophie, justement. Non, non, c'est...
Vous dites, j'ai appris la sexualité avec harakiri. Vous conseillez ça ou pas? Parce que... Est-ce qu'à la maison des femmes, on laisse une pile de harakiri?
Ah, c'est vrai que maintenant, harakiri, ça passe pas trop. Hein.
C'est différent.
Mais ouais, c'est vrai que j'ai découvert ça. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Ouais. Ouais. Je sais pas quoi vous dire. J'ai des souvenirs que je peux pas vous raconter.
On a parlé d'engagement pendant cette émission. La question de l'engagement qui vous travaille. Vous êtes notamment allé à Calais, à la rencontre des réfugiés. Vous avez passé des heures à nuit debout aussi.
Ouais. J'ai aussi été militante pour les législatives il y a quelques années. Je dis pas pour qui ni pourquoi. Mais j'allais dans les cités là-bas, parler avec les gens. Je voulais voir d'autres réalités, je voulais pouvoir surtout qu'on puisse échanger entre des réalités différentes. Notamment, j'ai rencontré un jeune homme qui avait 29 ans et qui n'avait jamais travaillé. Mais pas parce qu'il ne le voulait pas. Parce que de là où il venait, il n'avait accès à rien. Quelqu'un qui venait de ce quartier-là, c'était très difficile de trouver du travail, même en intérim. Toutes les rencontres que j'ai faites, même aller à Calais, même aller à Nuit debout, j'y voyais un espoir parce que ça correspond à des valeurs que j'ai. Mm-hmm. C'était contre la loi travail. Enfin, et je voulais. Mais par contre, j'ai essayé d'y participer, ça n'a pas marché. C'était pas pour moi. J'ai essayé d'être, je sais pas comment dire, rapporteur pour un groupe, mais oui. C'était pas possible. Et aussi, c'est très très difficile.
Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce que vous n'arriviez pas à faire?
Bah, je trouve que ce qui est très très difficile, c'est de se mettre d'accord. Et
c'est un don.
Non, mais c'est très très important maintenant. C'est pour ça que je le redis. France Inter, tout service public, c'est important parce que c'est une terre où des gens d'opinions différentes vont voir la même chose, vont entendre parler des mêmes faits, et où on peut discuter sur cette base-là. Et par contre, les discussions étaient interminables et je suis pas forte à ça. Voilà, il faut que je progresse encore. Mais j'aimerais bien être forte à ça, à faire dialoguer les gens ensemble.
Et donc vous adorez questionner la réalité, mais sur le terrain en fait, comme une journaliste.
Mais j'aime connaître les problèmes des gens, d'autres problèmes que moi. J'aime être confrontée, j'aime les échanges entre des personnes qui ne devraient pas se rencontrer. Ça j'adore. Ça pour moi, c'est la démocratie, c'est la société, quand on peut encore se parler. Alors voilà.
Formidable. Et on peut rester là-dessus, hein.
Ah oui.
Ah bah ouais. Parce qu'on en a tellement besoin. Donc on a besoin de vous, Laetitia Doche.
Ah bah merci.
Ah bah oui. Et je rappelle
aussi, on a besoin de vous aussi.
Merci. On peut vous voir, bien sûr, à l'affiche de ce très beau film.
Magnifique film.
La Maison des Femmes de Mélisa Godet, qui est à l'affiche.
Ouais. J'ai envie que tout le monde aille le voir.
Mais j'espère que tout le monde va aller le voir. Vous avez mis tellement de fougue. Ça, c'est la fougue. Il y a un mot-clé pour Laetitia Doche, j'ai l'impression que c'est la fougue.
Fougue, croque. Et périménopause.
Fougue, grog et périménopause sera le titre de cette émission.
Oh non, non.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Lisiane Larbani, attachée de production, Stéphane Ronxin à la réalisation, Thomas Robin à la prise de son, Rémi Sistiaga au mixage et merci à Noémie Boncourt à la documentation. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain à 19h20.